de radio de quartier peut apporter quoi que ce soit. Moi, je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous voyez, la force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, très bien, nous allons essayer de ne pas lambiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe Actif, le mix des cultures.
En silence, comme pour encore mieux m'égarer, pour ne pas te donner la chance, pour ne pas me laisser te confier ce qui s'agite dans ma panse, ce qui palpite dans mes pensées. De toute façon, ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est embrouillé. Puis ça sent un peu trop l'essence, et puis ça sent le chien mouillé. Alors n'y vois pas d'inconvénient si c'est la nuit sur la pointe des pieds. En silence, sans rien avoir à rajouter, je descends l'escalier comme on danse. Le pantalon perdu sous les souliers, en laissant mon slip éminence perdu sous le sommier. Je quitte enfin la résidence pour ne pas te faire espérer une explication de mes absences. Les yeux perdus sur le plancher, quand tu disais demain c'est dimanche, je disais ah bon c'est férié. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée, en silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée. En silence, sans même tenter de t'expliquer par quelle inadvertance j'ai tenté hier soir de me raconter ce qui te semblait des invraisemblances. L'été en somme en vérité, je suis bourré de condescendance pour mes faiblesses et dur à avaler. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. Ce qui fait que je flanche quand on essaye de m'apprécier. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée. En silence, sans une excuse mal formulée, sans même un billet d'absence. Doucement la porte est refermée.
Didier, j'aurais quelque chose à te confier.
Vas-y, confesse-toi.
Ne plaisante pas, je suis sérieux. Tu sais qu'avec Claire, nous sommes mariés maintenant depuis 3 ans. Et notre entente sexuelle nous a un peu déçus tous les deux. Nos sentiments et notre affection sont inchangés, mais à la longue, il s'est dégagé une certaine monotonie entre nous. À deux, on a vite fait le tour de toutes les positions sexuelles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tout est changé. Car, je t'assure, vous devriez essayer.
On partousait.
Oui. Bah, on ne joue pas les étonnés, la sexualité a évolué, notre génération se doit de connaître tous ces changements.
RFI, Radio France Internationale, 4h en temps universel, 6h ici à Paris. Le journal présenté par Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Et le Fonds monétaire international qui revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse pour 2026.
La faute à la guerre au Moyen-Orient. Rares sont les pays qui s'en sortent indemnes sur le plan économique. On fait le point dès le début de cette édition. On parle aussi de ces nouveaux affrontements hier entre Israël et le Hezbollah à Bint Jebel dans le sud du Liban, une ville régulièrement attaquée par l'armée israélienne. La guerre en Ukraine, cette fois, et des soldats russes qui se rendent à des robots. On vous raconte tout ça. La guerre, encore une, celle qui dure depuis 3 ans, jour pour jour, au Soudan. Édition spéciale à suivre ce matin sur RFI. Avant ça, dans cette édition, on vous parle de la visite en France du président mauritanien Mohamed Oulcher El Razouani. Ça commence aujourd'hui avec un programme bien chargé pour les 3 prochains jours. La France, où les députés ont finalement adopté hier la loi de simplification de la vie économique au détriment d'une mesure environnementale. Explication à suivre. Et puis on fait le point aussi sur la Ligue des champions de football. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales. Quelque chose pourrait arriver au cours des 2 prochains jours, dit Donald Trump. Lors d'un appel téléphonique, le président américain a conseillé à une journaliste du New York Post en mission en ce moment à Islamabad de rester dans la capitale pakistanaise. C'est là qu'ont eu lieu ce week-end de premières discussions avec l'Iran, non fructueuses. Et c'est là aussi que pourrait se tenir la prochaine session. C'est comme ça en tout cas que l'on peut interpréter les propos de Donald Trump, qui ne donne pas de date précise mais qui semble quand même optimiste sur la reprise de ces négociations. Des négociations que le secrétaire général de l'ONU appelle lui aussi de ses voeux. Il n'y a pas de solution militaire à cette crise, dit Antonio Guterres. Il y a par contre des conséquences économiques. Ainsi, le Fonds monétaire international revoit ses prévisions de croissance mondiale à la baisse. 3,1% cette année, prédit le FMI, qui misait plutôt sur 3,3% avant la guerre, Anne Verdaguer.
C'est la douche froide pour de nombreux pays qui espéraient encore de bonnes conditions de croissance en début d'année. La guerre a rebattu les cartes. Les régions du Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale sont les plus touchées, avec une croissance divisée par 2. Ce sont des régions qui sont directement impliquées dans la guerre au Moyen-Orient, soit parce qu'elles sont dans la zone du conflit ou parce qu'elles dépendent des hydrocarbures. Même constat pour l'Europe, qui devrait perdre 0,2% de croissance cette année selon le FMI. À l'inverse, l'impact est minime pour les principaux pays émergents comme la Chine. Si le choc énergétique est massif à l'échelle mondiale, le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchasse, explique qu'il est incomparable aux 2 chocs pétroliers des années 70.
L'économie est nettement moins dépendante du pétrole que dans les années 70. Il y a beaucoup d'autres sources d'énergie, le nucléaire ou les renouvelables entre autres. L'économie mondiale est devenue plus efficace concernant ses besoins énergétiques pour produire de la richesse, ce qui explique sa résilience.
Quant à la Russie, grand exportateur d'hydrocarbures, elle fait partie des pays qui résistent, avec une croissance qui est revue à la hausse en raison de la flambée des prix du pétrole.
Et d'ailleurs, la Russie se dit prête ce matin à compenser le déficit de ressources énergétiques de la Chine, qui elle est très dépendante du pétrole iranien. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite en Chine, et qui annonce que Vladimir Poutine s'y rendra, lui aussi, dans les prochaines semaines, visiblement, puisqu'il parle d'une visite en Chine du président russe au cours du premier semestre 2026. À noter aussi que le pétrole, malgré c'est vrai des flambées en série depuis le début de la guerre, recule un petit peu ce matin sur les marchés asiatiques. Des marchés qui semblent donc croire, au moins timidement, à un apaisement du conflit ainsi qu'à un cessez-le-feu qui pourrait se prolonger en Iran. Un cessez-le-feu, il n'y en a pas encore par contre au Liban, mais le pays et Israël acceptent d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable. C'est ce qui ressort des discussions d'hier à Washington entre des ambassadeurs israéliens et libanais. Alors la date et le lieu de telles négociations sont encore à définir, nous dit-on. Nous sommes tous deux unis dans notre volonté de libérer le Liban du Hezbollah, sur ton côté israélien. Côté libanais, l'ambassadrice était plus sobre, appelant simplement à une trêve entre Israël et le mouvement chiite après plus d'un mois de combats qui ont déjà fait plus de 2000 morts et près de 7000 blessés selon les autorités libanaises. Hier, le Hezbollah, qui rejette ces discussions, a revendiqué 13 attaques dans le nord d'Israël. Et puis il y a eu aussi de nouveaux affrontements dans la ville de Bint Jebel. Cette fois, c'est dans le sud du Liban, une ville à majorité chiite que l'armée israélienne dit désormais encerclée. Et Noé Pignette, ce n'est pas la première fois que Bint Jebel est attaqué par Israël.
Baptisée la capitale de la résistance par l'ancien secrétaire du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Bint Jebel subit sa 8e campagne d'ampleur depuis la création de l'État d'Israël. En 1972, l'armée de Tel Aviv tente d'en chasser les combattants palestiniens. 6 ans plus tard, Israël l'envahit et y impose la l'armée du Liban Sud, une milice d'extrême droite sous son contrôle. Puis en 1982, commence l'occupation officielle pour la population de Bint Ejbel. C'est le début de deux décennies de terreur, d'arrestations arbitraires et de tortures. Le début aussi de la résistance face aux envahisseurs jusqu'au retrait de l'armée israélienne en 2000. Lors de la guerre de 2006, malgré l'acharnement de son aviation, l'État hébreu ne parvient pas à s'en emparer. Il tente aujourd'hui de prendre sa revanche sur le Hezbollah. Au-delà du symbole, Bint Ejbel doit faire partie de la zone tampon que son ministre de la Défense veut établir. Israël Katz a donné l'ordre à ses soldats de raser les villages frontaliers. Un déplacement de population et une nouvelle occupation qui pourrait constituer des crimes de guerre.
La précision de Noé Pignède. Je rappelle que pour retrouver toutes les dernières informations sur la guerre au Proche et au Moyen-Orient, vous retrouvez notre live sur RFI.fr. Et cette guerre, elle inquiète beaucoup de monde évidemment, mais notamment Volodymyr Zelensky. Lors d'une conférence de presse en Norvège où il était en visite hier, le président ukrainien a notamment dit regretter le manque de temps de la part des négociateurs américains pour tenter de régler ce conflit qui oppose Kiev à la Russie. Il affirme même que ça a commencé à perturber les livraisons d'armes par les États-Unis, notamment en termes de missiles du système Patriot. Moins de missiles selon Zelensky, mais des drones particulièrement efficaces. Il s'en félicite dans une vidéo adressée au personnel de l'industrie de la défense après un fait d'armes inédit, des soldats russes qui se rendent à des robots. Le récit depuis Kiev de Lucas Lazo.
L'avenir se joue sur le champ de bataille et c'est l'Ukraine qui le façonne. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. La mise en scène est martiale. Le président, entouré du fleuron de l'armement ukrainien, l'air grave, s'adresse à la caméra.
Pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote, des systèmes robotisés terrestres et des drones.
Sur des images filmées par la caméra embarquée de l'un de ses engins et largement reprises par la presse ukrainienne, on y voit trois soldats russes se rendre, penauds, les mains en l'air, à des robots.
Dans les zones les plus exposées, c'est le robot qui est allé au-devant du danger à la place du combattant. Et cette opération a été menée sans participation de l'infanterie et sans perte de notre côté.
Ces véhicules terrestres sans pilote ne sont pas une innovation ukrainienne. Certaines armées occidentales en sont déjà équipées, mais c'est en Ukraine qu'ils ont été confrontés à la réalité du champ de bataille et formatés pour des opérations offensives.
En seulement 3 mois, nos autres systèmes robotisés terrestres ont déjà mené plus de 22 000 missions sur le front. Autrement dit, plus de 22 000 vies ont été épargnées. Il s'agit de haute technologie mise au service de la plus haute des valeurs, la vie humaine.
S'il est difficile de vérifier les allégations du président Zelensky, il ne fait aucun doute que ces robots terrestres seront amenés à jouer un rôle croissant sur le front ukrainien. Lucas Lazo, Kiev, RFI.
Un triste anniversaire ce mercredi au Soudan. Ça fait 3 ans tout juste que la guerre civile a commencé entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Plus de 13 millions ont dû fuir leur foyer à cause des combats. Édition spéciale ce matin sur RFI de 6h10 à 7h en temps universel. C'est la deuxième étape de la tournée africaine du pape Léon XIV. Le Cameroun, il y est attendu dans l'après-midi et y restera 3 jours. Pour l'heure, il achève sa visite en Algérie. Sa visite à lui aussi doit durer 3 jours. Le président mauritanien vient à Paris. Mohamed Ould Cheikh El Razouani est déjà venu dans la capitale française. Mais une telle visite d'État, c'est une première pour un chef de l'État de ce pays africain. Alors le programme s'annonce chargé. Il ne sera pas seul pour l'honorer, accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug. Au menu, David Bachet, des échanges économiques, mais aussi les questions migratoires et sécuritaires.
Mohamed Ould Cheikh El Razouani sera accueilli à 17h à l'Elysée, où il commencera sa visite par un entretien avec Emmanuel Macron, suivi d'un dîner d'État. L'Union européenne a fait de la Mauritanie l'un de ses principaux partenaires pour le contrôle des flux migratoires. En clair, la traque et l'expulsion des migrants clandestins en route vers l'Europe. Les ONG de défense des droits humains dénoncent régulièrement les violences exercées par les forces mauritaniennes contre les migrants. Après la rupture avec les pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina, la Mauritanie reste l'un des derniers alliés de la France au Sahel. Les relations entre Nouakchott et Bamako se sont crispées ces dernières semaines, mais la Mauritanie s'efforce de préserver autant que possible des relations de bon voisinage avec le Mali. Ses liens diplomatiques et l'activité des groupes djihadistes au Sahel semblent des sujets incontournables. jeudi. Le président mauritanien rencontrera la présidente de l'Assemblée nationale, puis le maire de Paris, avant de partir à Brest, visiter les chantiers navals et l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Dernière séquence vendredi matin avec un forum d'affaires, au cours duquel Mohamed Oulchek El Razouani rencontrera des chefs d'entreprise.
David Bachet, on reste en France où ce n'était pas gagné d'avance, mais où les députés ont finalement approuvé hier le projet de loi sur la simplification économique. Ça fait 2 ans et demi déjà que le texte était débattu. Alors forcément, il y a eu pas mal de modifications, mises à jour ce matin avec vous, Aurélien Devernois.
Depuis son lancement à l'automne 2023 et un long cheminement au milieu des chutes de gouvernement et autres dissolutions, la loi sur la simplification de la vie économique semblait presque maudite. Au final, c'est une version comprenant une 30aine d'articles qui est adoptée avec comme mesure notable la facilitation d'installation de projets industriels s'il s'agit de souveraineté nationale, par exemple, au détriment de la règle environnementale préconisant la limitation de l'artificialisation des sols. L'écologie malmenée également par la simplification du code minier ou de l'installation de centres de données très gourmands en énergie. L'autre aspect très attendu concernait la question des normes. Désormais, les nouvelles règles seront testées dans les entreprises sous l'égide du Conseil de la simplification rattaché au Premier ministre. Avant d'être généralisées, les TPE et les PME auront-elles plus facilement accès au marché public? Un gâteau à 400 milliards d'euros annuels. Une plateforme simplifiera les candidatures et les entreprises sélectionnées devront s'appuyer sur des artisans locaux pour mener les projets. Reste que la plupart de ces mesures n'entreront en vigueur ou ne montreront leurs effets que dans plusieurs années, trop tard sans doute pour beaucoup de petites entreprises étranglées par la crise actuelle.
Et le vote final de la loi est prévu aujourd'hui au Sénat. Et puis le Paris Saint-Germain, qualifié pour les demi-finale de la Ligue des Champions. Hier soir, pour leur quart retour, les footballeurs parisiens ont battu Liverpool en Angleterre 2-0, même score qu'à l'aller. Dans le dernier carré, ils affronteront soit le Bayern, soit le Real. Réponse ce soir, avantage aux Allemands pour l'instant. L'autre match du jour, ce sera Arsenal face au Sporting Club Portugal. À l'aller, ce sont les Anglais qui l'avaient emporté 1-0. Et puis la compétition s'arrête là pour Barcelone qui, c'est vrai, a battu l'Atlético Madrid 2-1 hier soir, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper son retard de sa défaite de la semaine dernière. Merci d'écouter RFI, il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
4h12 en temps universel, le retour de l'actualité africaine, c'est dans une petite vingtaine de minutes. D'ici là, on va parler du Soudan qui entre, je vous le disais dans le journal, dans sa 4e année de guerre. Aujourd'hui, on fait le bilan terrible des 3 premières. À suivre également, plus légèrement, l'invité culture, ou plutôt les invités culture, toujours inséparables derrière la caméra, les réalisateurs français Olivier Nakache et Eric Toledano. Ils répondent à RFI alors que sort aujourd'hui leur nouveau film, Juste une illusion, une plongée dans une famille des années 80. Et puis on va parler de l'effet placebo aussi, ce sera dans le conseil santé du jour. Mais d'abord, direction le Honduras, moins de 3 mois après le départ du gouvernement de gauche. C'est un gouvernement de droite qui l'a remplacé fin janvier, à la tête du pays désormais Nasri Asfoura. Et les nouvelles autorités ont mis fin au programme Hermano Vuelve a Casa, un programme public de réintégration qui prévoyait une aide d'environ 100 euros pour chaque migrant rentrant au pays, ainsi qu'un accompagnement administratif. Tout ça, c'est fini. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à revenir au Honduras depuis quelques mois, expulsés par les États-Unis de Donald Trump. Pour eux, le gouvernement hondurien dit désormais préférer se concentrer sur une réintégration par le travail, sauf que dans les faits, une fois rentrés, eh bien, ils n'ont souvent pas de travail et ils n'ont donc maintenant même plus d'aide financière non plus. Reportage de Marie Griffon.
Aéroport de San Pedro Sula, au nord du Honduras, à la frontière avec le Guatemala, un avion se pose sur le tarmac. À bord des Honduriens, encore vêtus de leurs survêtements orange et gris, portés dans les centres de détention américains. À leur arrivée dans le centre de migrants, seul un petit sac en plastique les attend.
C'est un kit de, voyons voir, des petites choses personnelles comme du savon, du shampoing, du dentifrice.
Guillermo a passé plus de 20 ans aux États-Unis.
20 ans, 3 semaines et 15 jours aux États-Unis.
Il fait partie des bénéficiaires du TPS, ce statut de réfugié accordé en 1999 aux migrants d'Amérique centrale après l'ouragan Mitch qui avait dévasté la région et causé plus d'1,5 million de déplacés.
Je suis parti sans jamais penser y rester 20 ans. Pour moi, j'allais travailler 3 ans, mais finalement, je suis resté. Mes enfants sont nés là-bas. Je me suis dit que j'allais rester jusqu'à ce qu'ils soient grands. Mon fils a 16 ans et ma fille 14 ans. Je dois partir, je suis désolé.
Repartir en bus, sans aucun bagage et sans l'aide de l'État. Avocate sur les questions de migration, Marcela Caro regrette le retrait du programme public Hermano Vuelve a Casa.
ce n'est pas préparé.
Deviens pour elle son essence et son miel, puis fais la montée au ciel afin de devenir son essentiel. J'ai longtemps vécu seul, était-ce un délit de sale gueule ou juste moi qui pensais que ma ganache n'était pas ce qu'elles veulent. Bref, c'est son exception débile et son sans concession futile et son les séditions défilées sans opposition civile. C'est moi pour elle, elle pour moi, pour toi mon cœur est aux abois. Et même si tu m'employais pour toi, je ferais du bénévolat. Ton souffle m'emmène dans les recoins les plus cachés de notre destinée. Pour toi je deviens bohème, à tes côtés je n'ai pas peur de voir les secondes défiler. Ton souffle me mène sur les sentiers les plus charnus du désir et du péché. Deviens mon emblème, je n'entends plus rien, donc prends ma main, suis mon chemin, partons loin. Tu sais que je t'aime poupée, alors ne joue pas avec moi. J'ai
vécu de grandes épopées, des pertes ainsi que des prises de poids, des filles de joie parfois pour combler le manque que j'avais de toi. T'aimer en secret sans pour autant croire un jour te rendre foi. Tu es si belle et moi si fou, mais tu es celle qui me fait bafouer. Et quand tu arrives juste là-bas, ça moi j'avoue, être à moins que rien des fous. Et un cartomancien raté, un enquêteur ayant tellement de mal à déjouer tes projets. Dis-moi que t'es là avant la fin, car je sais que c'est toi mon destin. Et ne t'en fais pas, je t'aimerai toujours autant, même des fins. Je t'ai cherché en vain, je t'ai trouvé enfin. Mon rêve s'exauce et je veux voir grandir cette petite chose dans ce couffin. C'est malsain de t'aimer autant, l'absinthe me laisse sur le divan. Je m'abstiens pendant le ramadan, t'es atteinte, je suis ton sultan. Mon étreinte sur ton corps brûlant, mon empreinte, ton cœur palpitant. Tes craintes et ma peur du néant, les contraintes sont les fatigantes. Ton souffle m'emmène dans les recoins les plus cachés de notre destinée. Pour toi je deviens bohème, à tes côtés je n'ai pas peur de voir les secondes défiler. Ton souffle me mène sur les sentiers les plus charnus du désir et du péché. Deviens mon emblème, je n'entends plus rien, non prends ma main sur mon chemin, partons loin. Ton souffle m'emmène, ton souffle m'emmène.
À fond.
Principe actif 102.4 FM.